Les rangs dévoilent la version sans pilote de Raher. Damas appelle à une action internationale urgente contre Israël et rassemblement anti-guerre et anti-OTAN à Washington. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Organisation iranienne des industries de l'aviation a annoncé son intention de dévoiler une version sans pilote de l'avion de chasse furtif monoplace Raher de fabrication locale au cours de la prochaine année du calendrier persan qui commence le 21 mars 2023. S'exprimant lors d'une émission télévisée ce samedi 18 février, le directeur général de l'IAIO, l'Organisation iranienne des industries de l'aviation, le général de brigade Afshin Khajifard, a déclaré que l'avion avait été fabriqué à l'IAIO et que le projet avait été évoqué pour la première fois dans les médias il y a 10 ans. Le projet Raher atteint sa pleine maturité en termes de technologie, mais nous produisons des produits plus diversifiés. Cela signifie que d'ici le milieu de l'année prochaine, vous verrez de nouvelles versions de cet avion, y compris la version sans pilote qui seront livrées aux forces armées, a-t-il précisé. Khajifard a également souligné que l'Iran était autonome dans le domaine de la réparation des avions commerciaux et de la fabrication de composants au mépris des sanctions. Nous avons atteint un niveau d'autosuffisance dans le domaine des moteurs, si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons produire 10 types de moteurs, dont la plupart sont utilisés sur des drones et des missiles de croisière, a-t-il ajouté. Khajifard a déclaré que l'IAIO avait commencé à travailler sur plusieurs prototypes qui seraient testés l'année prochaine. Bien sûr, nos drones électriques ont atteint leur pleine maturité, mais les avions électriques nécessitent plus d'amélioration, a-t-il encore expliqué. Évoquant les réalisations de l'Iran en matière de développement de véhicules aériens sans pilote, Khajifard a déclaré « Nous avons différentes classes de missiles, de bombes de précision, d'avions de guerre électroniques et de drones de reconnaissance. Cependant, nous essayons de développer des drones avec des applications civiles, car les drones peuvent être utilisés pour l'agriculture, la cartographie et la lutte contre l'incendie. » Les experts et techniciens militaires iraniens ont ces dernières années fait des progrès substantiels dans la fabrication d'une large gamme d'équipements indigènes, rendant les forces armées autosuffisantes dans le secteur de l'armement. Les responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n'hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires entièrement destinées à la défense. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que l'Azerbaïdjan devrait éviter de politiser l'attaque amère menée contre son ambassade à Téhéran, survenue à la fin du mois dernier. Faire des interprétations non fondées de cet incident devant les médias n'est pas une action constructive dans la voie de l'enquête légale et judiciaire menée sur l'affaire. Il veut mieux éviter tout préjugé et toute politisation de cette affaire, a déclaré Nasser Kanani dans un communiqué le dimanche 19 février. Le 27 janvier, un assaillant est entré dans l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran avec une arme à feu et a tiré sur des personnes présentes. Le chef du service de sécurité de l'ambassade a été tué et 2 gardes ont été blessés dans cette attaque. L'assaillant, identifié comme Yassin Hossainzadeh, a affirmé que sa femme s'était rendue à l'ambassade d'Azerbaïdjan en avril 2022 et qu'elle n'était jamais revenue. À la suite de l'incident, le chef de la police de Téhéran a déclaré qu'une enquête préliminaire avait indiqué que des questions familiales étaient à l'origine de la fusillade mortelle, mais que des responsables azerbaïdjanais, dont le président Ilham Aliyev, avaient qualifié l'incident d'acte terroriste. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a lui aussi également déclaré que les services de renseignement et de sécurité du pays estimaient que l'attaque n'était pas une opération terroriste et organisée, mais qu'elle avait été plutôt menée avec des motifs personnels. Malgré tous les efforts de l'Iran, Aliyev a ordonné l'évacuation de l'ambassade 2 jours plus tard. S'adressant aux journalistes en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, samedi 18 février, Aliyev a prétendu que des entités liées au gouvernement iranien étaient impliquées dans l'attaque. La normalisation des relations avec l'Iran dépend d'une enquête transparente qui traduira les auteurs de l'attaque en justice, a-t-il déclaré. Réagissant aux affirmations du président azerbaïdjanais, Khamenei a déclaré que les responsables iraniens avaient répété à maintes reprises que l'affaire suivait ses procédures légales et que ce qui avait été publié jusqu'à présent au sujet de l'incident était des notes explicites de l'assaillant. Khamenei a souligné que tous les aspects de cet incident tragique faisaient l'objet d'une enquête profonde. Il a une fois de plus exprimé la volonté de l'Iran de donner les résultats de l'enquête à l'Azerbaïdjan, déclarant « Nous sommes convaincus que dans une atmosphère de coopération avec une approche constructive, les responsables azerbaïdjanais recevront les réponses nécessaires concernant toutes les ambiguïtés. » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Faisal Mehrdad, a fermement condamné une frappe aérienne israélienne contre Damas qui a tué au moins 5 civils, appelant à une action internationale urgente pour arrêter l'agression du régime israélien. L'attaque au missile contre Damas est considérée comme un crime contre l'humanité, surtout dans une situation où la Syrie est en prise avec une catastrophe après le séisme dévastateur, a déclaré dimanche 19 février le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mehrdad lors d'une réunion avec les ambassades et les hauts diplomates étrangers. La poursuite de ces attaques brutales et de ces crimes contre les peuples palestiniens et syriens constitue une menace explicite pour la paix et la sécurité dans la région et nécessite une action internationale urgente pour mettre fin aux actions agressives israéliennes, a dit le ministre syrien. Les secrétariats des Nations Unies et du Conseil de sécurité devraient condamner les crimes israéliens, prendre les mesures nécessaires pour tenir les Israéliens pour responsables, punir les auteurs des attaques et faire pression pour lever les sanctions unilatérales contre la Syrie, a déclaré Mehrdad, soulignant que la frappe israélienne coïncidait également avec les attaques menées par Daesh qui ont coûté la vie à des dizaines de civils innocents dans la province de Homs. En France, une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi 7 mars. Les syndicats ont indiqué qu'ils souhaitaient mettre la France à l'arrêt. Après une cinquième journée de mobilisation, jeudi 16 février, les syndicats souhaitent relancer la mobilisation. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale française a appelé à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars. Vendredi 17 février, les débats se sont terminés à l'Assemblée nationale sans que les députés aient pu débattre du report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Les syndicats s'opposent à la réforme et demandent le retrait du projet de loi. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de BFM TV dimanche 19 février, a souhaité qu'il y ait un mouvement de solidarité le 7 mars. Il faut qu'il y ait des millions de grévistes ce jour-là, dans toute la France, a-t-il détaillé. Travailler 2 ans de plus, pour beaucoup, ce n'est juste pas possible, a argumenté le chef de file de la CGT. Il a également rappelé que des initiatives étaient organisées dans plusieurs villes d'ici au 7 mars, avec, par exemple, des retraites aux flambeaux ou encore des manifestations locales. Des manifestants anti-guerre sont descendus dimanche 19 février dans la rue à Washington DC pour exiger, entre autres, que les États-Unis cessent d'envoyer des armes à l'Ukraine, dissolvent l'OTAN et se joignent à la Chine et la Russie pour créer un monde unipolaire, a rapporté l'agence de presse russe Sputnik. Le rassemblement Colère contre la machine de guerre a réuni environ 1 millier de personnes, comprenant d'anciens orateurs du département d'État, des politiciens, des journalistes et des militants. Les anciens sénateurs Ron Paul et Denis Kucinich, l'ancien représentant Tulsi Gabbard, ont fait la une de l'événement et ont appelé à l'unité au sein du mouvement anti-guerre. Les activistes anti-guerre ont considéré le président américain Joe Biden comme responsable de l'imposition d'un trillion de dollars dépensés à la guerre en Ukraine aux Américains. Les estimations du nombre des participants au rassemblement n'ont pas encore été annoncées, mais ils avoisineraient le millier de personnes. L'événement s'est tenu devant le Lincoln Memorial, le groupe marchant vers la Maison-Blanche pour remettre à Biden une liste de 10 demandes, notamment l'arrêt du financement de l'Ukraine, des négociations de paix avec la Russie et la dissolution de l'OTAN. grève du 7 mars, un regain de mobilisation attendu en France. En France, une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi 7 mars. Les syndicats ont indiqué qu'ils souhaitaient mettre la France à l'arrêt. Après une cinquième journée de mobilisation, jeudi 16 février, les syndicats souhaitent relancer la mobilisation. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale française a appelé à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars. Vendredi 17 février, les débats se sont terminés à l'Assemblée nationale sans que les députés aient pu débattre du report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Les syndicats s'opposent à la réforme et demandent le retrait du projet de loi. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de BFM TV dimanche 19 février, a souhaité qu'il y ait un mouvement de solidarité le 7 mars. Il faut qu'il y ait des millions de grévistes ce jour-là, dans toute la France, a-t-il détaillé. Travailler 2 ans de plus, pour beaucoup, ce n'est juste pas possible, a argumenté le chef de file de la CGT. Il a également rappelé que des initiatives étaient organisées dans plusieurs villes d'ici au 7 mars, avec, par exemple, des retraites au flambeau ou encore des manifestations locales. Alors que la question du durcissement du mouvement de contestation de la réforme des retraites par des grèves reconductibles suscite toujours des débats au sein de l'intersyndicale, les syndicats de certaines professions ont déjà appelé à la grève reconductible le 7 mars. Dans un communiqué publié le 11 février, l'intersyndicale de la RATP a ainsi appelé à cesser le travail à partir de cette journée. Du côté de la SNCF, les syndicats se réuniront le 22 février prochain pour décider de la mobilisation du 7 mars, indique le Figaro. Les fédérations CGT, des services publics et des transports ont également initié un mouvement auprès des éboueurs et l'ensemble de la filière des déchets à compter de la même date dans un communiqué conjoint. La fédération CGT de la chimie, qui comprend les raffineries, appelle aussi à la grève reconductible dans le secteur à partir du 6 mars au soir. Selon un représentant syndical de la FNIC-CGT, contacté par le Figaro, des pénuries de carburant pourraient intervenir à partir du 7 mars. Elles pourraient être de la même ampleur qu'en octobre dernier, lorsque nous avons organisé une grève de plusieurs jours pour obtenir une augmentation de salaire, estime ce représentant syndical dans les colonnes du quotidien. De son côté, la CGT Cheminots veut ouvrir le débat de la grève reconductible à partir du 7 mars. En faisant grève, nous avons un vrai pouvoir sur l'économie. En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la pression, a déclaré le syndicat, selon des propos rapportés par France Bleu. Les syndicats de l'éducation ont, dans un communiqué publié le 14 février, annoncé une grève le 7 mars avec comme objectif de fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services. D'ici là, de nombreux autres secteurs, comme l'énergie, devraient rejoindre le mouvement. Reste à savoir quelle tendance se dégagera entre un mouvement reconductible ou une poursuite des grèves unitaires. Cela intervient alors que la cote de popularité du président français Emmanuel Macron a atteint son plus bas niveau depuis 3 ans, a révélé le sondage d'IFOP, faisant savoir que seulement 32% des Français sont satisfaits de l'action de Macron, moins 2 points. La cote de popularité de Macron a ainsi reculé de 6 points au total depuis la rentrée de septembre 2022 et la mise en orbite de son projet de l'augmentation de 2 ans de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, retrouvant ainsi son étiage pré-crise de la pandémie de COVID-19.